Vous écoutez RFI, les 4 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, le conflit à l'est de la RDC et les tensions qui continuent sur le terrain entre les forces congolaises et l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Nous reviendrons dès le début de ce journal sur la décision de Kinshasa de négocier directement avec les rebelles. La mobilisation des partisans de l'opposition qui ne faiblit pas en Turquie. Le chef de file de l'opposition Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption de terrorisme, a été présenté à la justice ce samedi soir à Istanbul sur fond de manifestations et de face-à-face avec la police. Et puis le nouveau chasseur de combat furtif américain présenté par Donald Trump. Il portera le même numéro que celui du 47e président, le F-47. Plus de détails sur ce nouvel appareil à la fin de ce journal. Les tensions continuent dans l'est de la RDC. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, toute la région du Kivu reste sous la pression des groupes rebelles AFC M23, contexte dans lequel se pose la question du revirement de Kinshasa en acceptant de négocier directement avec les rebelles soutenus par le Rwanda. Des rebelles qui contrôlent d'importants territoires et des villes dans les provinces du nord et du sud Kivu. La chef de la diplomatie congolaise s'est expliquée ce samedi devant la presse à Kinshasa, évoquant notamment la récente rencontre à Doha entre les deux présidents congolais et rwandais. Thérèse Kayikwamba parle d'un choix qui s'adapte à la réalité sur le terrain.
Nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même et surtout pour le président de la République, c'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. La rencontre de Doha n'est pas venue se supplanter aux efforts qui étaient en cours, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'accompagnement à ces efforts. La voie des solutions africaines, nous continuons à la privilégier. Évidemment que nous ne voulons pas que sous le prétexte d'une solution africaine, des questions parfois épineuses où des vérités ne soient pas dites.
Des propos recueillis par Pascal Moulégoua. Le conflit dans l'est de la RDC, cette annonce ce samedi des combattants de l'AFC M23 sur leur retrait de Walikale Centre, situé dans le Nord Kivu, une agglomération qu'ils avaient conquis mercredi dernier. Ils affirment ainsi vouloir, je cite, « favoriser un climat propice au dialogue » et ce, conformément à un cessez-le-feu unilatéral proclamé fin février. Mais selon les informations recueillies par RFI auprès de sources locales, les combattants étaient toujours visibles dans l'après-midi. Au moins dans 4 des 6 quartiers de la cité. Les tensions qui se poursuivent en Turquie. Depuis mercredi dernier, des milliers de Turcs se mobilisent pour dénoncer une manœuvre politique après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. C'était encore le cas ce samedi soir, notamment à Istanbul, où il devait être présenté à la justice. Le maire d'Istanbul devait être désigné candidat du CHP, la principale formation d'opposition, alors qu'il est en tête des sondages pour les élections de 2028. Une figure politique qui a su rassembler, au-delà de sa formation, depuis sa première élection à la tête de la mairie d'Istanbul en 2019. Pour l'AKP, le parti du président Erdogan, il est perçu comme une véritable menace. Ekrem İmamoğlu, laïque mais musulman pratiquant, était notamment en mesure de s'attaquer aux divisions du pays, comme l'explique Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient.
Aujourd'hui, vous avez deux Turquies qui se regardent en chien de faïence, qui ne se parlent quasiment pas, qui ne communiquent pas et qui ne se comprennent pas. On est véritablement dans cette situation. Alors évidemment, dans les grandes villes, le courant politique incarné par İmamoğlu est majoritaire, puisque non seulement lui a été élu 2 fois maire d'Istanbul, mais que toutes les autres grandes villes de Turquie sont aux mains de son parti. A contrario, dans les campagnes turques qui votent massivement pour le parti de M. Erdogan, il est conçu comme un anti-religieux, comme quelqu'un qui veut remettre en cause les préceptes de la religion, ou qu'il est mal perçu, pour parler clair. Donc vous voyez, il y a là un grand travail de séduction et de pédagogie politique de la part de İmamoğlu. C'est d'ailleurs en fonction de cette grille d'analyse qu'on peut comprendre son attitude beaucoup plus décontractée par rapport aux enjeux religieux. Traditionnellement, son parti est un parti qui s'affirme bien sûr laïque, voire même avec des relents anti-religieux. Ce n'est pas du tout la ligne de Monsieur Imamoglu. Il a bien compris que s'il se présente aux élections présidentielles et s'il a l'intention de les remporter, bah, il va bien falloir séduire, remporter une partie de l'électorat des campagnes conservatrices de la Turquie.
Net regain de tension ces dernières heures également au Proche-Orient. Israël a mené ce samedi des frappes au sud Liban. Les autorités libanaises font état de 6 morts. Des frappes menées en réponse à des tirs de roquettes depuis le territoire libanais. Le Hezbollah a de son côté nié toute responsabilité. La France les a condamnés tout en appelant Israël à la retenue. Le président américain secoue la planète en bouleversant les alliances et en malmenant ses voisins américains et européens. Un contexte où l'administration Trump continue d'avoir un discours très offensif. Contexte dans lequel Donald Trump a indiqué ce vendredi avoir lancé un grand programme pour concevoir un nouvel avion de combat. Le 47e président des États-Unis a décidé que l'appareil de chasse porterait le même numéro. L'avion s'appellera donc F-47. Rien au monde ne pourra rivaliser avec lui, insiste le président américain, mais ce n'est pour l'heure qu'un prototype. Franck Alexandre.
Le F-47, c'est un appareil de 6e génération, furtif comme l'actuel F-35 de Lockheed Martin, mais qui en plus aura la capacité d'être accompagné de drones. Dans un environnement aérien de plus en plus contesté, où la supériorité aérienne n'est plus acquise, ces drones auront la mission de percer les défenses adverses. Lancé en 2015, ce programme fut mis en pause pour une raison de coût, mais la récente présentation de démonstrateurs chinois de 6e génération est venue bouleverser les équilibres et relancer le projet. Un projet de plus de 20 milliards de dollars qui a été confié à Boeing et il tombe à pic pour le constructeur américain, fragilisé par les déboires de son appareil de transport civil Dreamliner. Un prototype du F-47 existe déjà. L'armée de l'air américaine espère s'équiper très prochainement et c'est aussi une façon pour Washington de relancer la course technologique pour distancer et épuiser le compétiteur chinois. Une inconnue cependant, le F-47 connaîtra-t-il le même succès à l'export que le F-35, notamment auprès des Européens, échaudé par le contrôle qu'impose à distance Washington sur ses équipements stratégiques?
Franck Alexandre, les États-Unis qui attendent toujours un engagement ferme de la Russie pour une trêve en Ukraine, alors que les échanges d'artillerie continuent entre les deux pays. La Russie dit attendre quelques progrès des négociations prévues ce lundi en Arabie Saoudite. En France, depuis ce vendredi et tout au long du week-end, une grande opération de collecte de fonds et de mobilisation se déroule pour la lutte contre le VIH. C'est le SIDAction lancé par l'association éponyme. L'occasion aussi de sensibiliser à l'importance du dépistage. Valérie Cohen a rencontré Geneviève Grisper, une femme ivoirienne âgée de 41 ans. Elle est installée en France et elle a découvert qu'elle était séropositive il y a 10 ans. Écoutez son témoignage.
Quand j'ai récupéré les résultats, ça m'a fait un choc. J'ai fondu en larmes. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir l'accepter. En fait, pourquoi je pleurais autant? Parce que le VIH, il est considéré comme si c'était ta vie qui avait basculé. Puis j'avais aucune information sur le VIH. Je ne savais pas que la médecine avait évolué. On pouvait se marier, on pouvait avoir des enfants bien portants. Du coup, pour moi, c'est mon monde qui s'effondrait. Je me suis tout de suite fait prendre en charge. J'ai été mise sous traitement, trithérapie directe. Hein. J'ai été suivie aussi psychologiquement. Les médecins m'ont beaucoup rassurée. Au bout de 3 mois de traitement, j'ai eu une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH. Puis j'ai vu que tout était possible. Je pouvais poursuivre mes rêves, je pouvais avoir des enfants. Et en 2017, j'ai accueilli mon premier fils qui est très bien portant. Il n'est pas infecté. J'ai continué, j'ai croisé mon mari, on s'est marié, on a eu un deuxième enfant. Donc voilà, aujourd'hui physiquement je vais super bien, mentalement je vais super bien. Donc il faut très bien prendre les médicaments tous les jours et puis on a une vie normale en fait.
Ajoutons que selon l'ONU SIDA, en 2023, 1,3 million de personnes ont été contaminées par le VIH. Un quart des personnes vivant avec le virus n'ont toujours pas accès à un traitement et 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA durant cette même année 2023. Et puis en bref, encore des nouvelles rassurantes du pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Il devrait réintégrer ce dimanche sa résidence au Vatican. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'un de ses médecins. Il effectuera une convalescence d'au moins 2 mois. Merci d'écouter RFI. Il est 4h10 à Paris.